Les éditions Telem présentent un enregistrement intégral de Cendre ardente, de Marc Woltenhauer, lu par Édouard Doux. Du point de vue de l'homme qui vit toujours dans l'intervalle entre le passé et le futur, le temps n'est pas un continuum, un flux ininterrompu. Il est brisé au milieu, au point où il se tient, et son lieu n'est pas le présent tel que nous le comprenons habituellement, mais plutôt une brèche dans le temps que son constant combat, sa résistance au passé et au futur, fait exister. Hannah Arendt, La crise de la culture, 1972. Prologue. Elle pédalait à un rythme soutenu en regardant le soleil levant scintiller sur les eaux du Léman. À l'aube, hiver comme été, elle commençait sa journée en nageant dans le lac, à la plage de la Maladère. Hormis une joggeuse qui faisait son footing, casque audio sur la tête, la promenade sur le rivage était déserte. Lorsqu'elle arriva au restaurant du camping, elle descendit de sa bicyclette, l'appuya comme à chaque fois contre le tronc d'un magnifique saule pleureur dont les longues branches lianes venaient frôler délicatement le sol. Puis elle retira ses vêtements, qu'elle déposa sur la selle de son vélo. Elle observa l'alignement de tentes et de camping-cars. Personne ne semblait encore avoir émergé du sommeil. N'était-ce un brave chien, un joli petit bâtard au regard attendrissant, qui s'était approché d'elle pour réclamer quelques caresses? Elle sortit sa serviette du panier accroché au guidon et descendit les marches en pierre jusqu'au ponton où un couple de canards colverts se reposait dans une douce quiétude, tandis que deux cygnes s'ébrouaient dans l'eau. 20 ans auparavant, elle avait vécu une phase compliquée de sa vie. Une de ses amies lui avait suggéré de tester les bienfaits de la baignade matinale. C'était rude, les premières fois en hiver. Elle s'y était habituée et ce rythme quotidien était presque devenu une addiction. Ses préoccupations s'envolaient lorsqu'elle s'immergeait dans l'eau froide. Elle ressentait une sorte d'euphorie, une sensation de bien-être. Se plonger dans le lac permettait de réveiller l'énergie vitale de son corps. Il n'y avait, selon elle, rien de mieux pour entamer la journée. Elle déposa sa serviette éponge, descendit l'échelle et entra dans l'eau jusqu'à la taille. Elle prit le temps de s'habituer à la fraîcheur et en profita pour admirer les montagnes qui émergeaient de la brume matinale. Elle se baissa, puis se mouilla le visage et le haut du corps, inspira avant de s'élancer et commença à faire des brasses. Après une 20aine de minutes, elle fit demi-tour et revint vers le rivage en crawlant. Elle se réjouissait de rentrer chez elle pour passer sous une douche chaude et prendre le petit déjeuner en compagnie de son mari avant d'entamer sa journée de travail. Mais alors qu'elle approchait du rivage, son bras heurta soudain un objet qui flottait à la surface du lac. Elle s'arrêta net et sortit la tête de l'eau. Un sac poubelle en plastique noir, à moitié immergé, lui barrait le passage. Pestant intérieurement contre la personne qui s'était permis de jeter ses détritus dans le lac, elle décida de ramener le sac sur la rive pour le déposer là où il aurait dû l'être, dans un conteneur à ordures. Elle l'agrippa d'une main pour le tirer tout en nageant, mais il était très lourd. Parvenue au rivage non sans peine, elle sortit de l'eau, alla chercher sa serviette pour se sécher, car la brise la faisait frissonner. Elle aperçut un employé communal en train de vider les poubelles. Elle l'interpella et il s'approcha nonchalamment, tenta à son tour de tirer le sac hors de l'eau à l'aide de son râteau, mais les dents en déchirèrent le plastique. Une insoutenable odeur de putréfaction se répandit. Chapitre 1. La famille se compose des gens de la maison. À mesure que celle-ci s'accroît, ils se divisent en confréries, les confréries en groupes de parenté, les groupes de parenté en clans, les clans en bannières, et tous ensemble constituent une famille étendue appelée nation, qui a une patrie, un sang commun, une langue commune et des coutumes communes. Canoun de Leke Dukatsini, livre 2, chapitre 2, verset 19. 6 mois plus tôt, Marianne Hutty descendit de la passerelle et posa le pied sur le tarmac de l'aérodrome de Podgorica. Le bitume était chauffé par le soleil radieux de février. Marianne n'était pas revenue au Monténégro depuis qu'il avait émigré en Suisse avec sa famille, à l'âge de 37 ans.